Maintenant, la place de l'agriculture française parmi... Là, une diapo encore un peu dure à lire. Celle-là, elle compare au niveau mondial les exportations et les importations par grand bloc. L'Europe, c'est relativement équilibré. Il y a un petit déficit agroalimentaire de l'Europe, mais comparativement, c'est le solde est négatif, mais pas beaucoup. Par contre, Amérique du Sud, Amérique centrale, les deux ensemble, c'est le principal agro-exportateur mondial. C'est lui qui alimente l'Asie, les régions qui sont très, très déficitaires. L'Asie, l'Océanique, est très, très déficitaire. Bon, que par exemple, l'Amérique centrale et du Sud a un solde exportateur qui est trois fois supérieur à celui des USA. C'est pour un petit rappel. Donc, l'Union européenne, ça reste le premier acheteur et le premier fournisseur de produits agricoles dans le monde. Et de loin, le chiffre là, 485 milliards de dollars US, c'est énorme, c'est trois fois ce que produisent les USA. Mais avec un solde un petit peu négatif. Au sein de l'UE, la France est la première puissance agricole et agroalimentaire. Même si au niveau des IAA, elle n'est pas toujours en premier. Au niveau de l'agriculture, la production agricole est en premier. C'est 19% de la production de l'Union européenne et à 28 et 72 milliards d'euros de valeur de sa production. Mais c'est moins que les trois maladies cumulées là. Vous pouvez vérifier ça sur Internet. Et c'est le troisième exportateur de l'Union européenne de produits agroalimentaires. Alors, c'est pas le premier. C'est qu'on est premier en valeur de production, mais pas en exportation. Il y a des petits malins qui nous passent devant. Donc, voilà. Là, je ne vais pas commenter ce tableau. C'est ce tableau qui m'a permis de faire les autres commentaires sur les cartes d'après. C'est tous les pays d'Europe, avec, de 2007-2010, le nombre d'exploitations agricoles. Moi, je préfère parler de fermes. Hein. Exploitation, Pisani disait que c'était un mot horrible. D'ailleurs, ce n'est pas traduisible ni en anglais ni en espagnol. La superficie agricole utilisée et la superficie moyenne. Simplement, donc la France est au milieu. Nombre, c'est les nombres tout compris, hein, même celles qui ne sont pas très, très professionnelles. 500 000, les professionnels, c'est moins de 400. Et on a une superficie agricole de 28 millions, ça dépend les chiffres. Tout à l'heure, je vous ai dit 29, il y a des débats, mais c'est quand même à la marge. Et vous voyez, la Roumanie, 3,9 millions de paysans. Donc, si on prend l'ensemble de l'Union européenne, dans ce tableau-là, 13,6 millions d'exploitations, eh bien, la Roumanie en fait plus du tiers. Les pays de l'Est, là, ils ont beaucoup, beaucoup de petites structures. Mais je préfère commenter ça avec des cartes, sinon là, on va pas avancer. Maintenant, au niveau de la taille, les couleurs, ça se voit bien de loin, ces couleurs hein? Alors, là, j'ai d'autres chiffres, et c'est apparemment, ils ont éliminer les toutes petites exploitations, c'est 12 millions de fermes dans l'Union européenne, taille moyenne 14 hectares. Les grandes fermes, on les voit là, en foncé, dans l'est de l'Allemagne. C'est des ex-Sofcos. Hein. Et puis également République tchèque et en Slovaquie. Ça, c'est les plus grandes fermes européennes. Ils nous ont mis le désordre, parce que ceux-là, ils ne sont pas en agriculture familiale. Et puis après, vous avez le vert foncé, moins foncé, mais quand même assez foncé. Vous avez la France et une partie de l'Allemagne, et puis une partie de l'Espagne. On a quand même des exploitations de taille assez grande. Et puis vous avez à l'autre inverse, tout ce qui est en clair. En jaune et en clair. Roumanie, taille moyenne, 3 hectares et demi, par rapport aux centaines d'hectares du vert foncé. Et puis après, vous avez Grèce, Bulgarie, Pologne, Italie, Slovénie, Croatie, c'est moins de 10 hectares. Donc on a une grande disparité des tailles d'exploitation. Ce que je vais vous montrer à travers ces diapos, c'est la grande disparité des agricultures européennes et de dire que faire des espaces régionaux protégés pour mettre en confrontation petite agriculture de céréalière qui va être dans la botte de l'Italie avec une grande ferme d'Allemagne de l'Est... C'est presque comparé à un petit paysan du Burkina avec un paysan de la Beauce. Et donc les espaces régionaux protégés, oui, mais pas n'importe quels espaces. Ça tenait la route quand on mettait la France, l'Italie, les 6 premiers pays de l'Union européenne. Mais là, on a rattaché des pays qui sont trop hétérogènes. Alors, en ce qui concerne l'emploi agricole, on a des zones. Nous, on est plutôt là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, le 2,5 hein, dans la production, entre 2 et 4 selon les régions de France. Et puis, vous avez des zones où c'est à plus de 20%. Et notamment, certains pays de l'Est, Pologne, pareil pour une partie des pays baltes, et puis le Sud. Donc, on a aussi une grande hétérogénéité de la part de l'activité agricole, des actifs agricoles par rapport aux actifs totaux. Moi, je commande simplement, il y a une demi-douzaine de cartes plus ça. Alors ça, c'est le caractère familial, par pays. Simplement, vous allez voir l'incroyable écart entre ce qui est en vert, c'est force de travail familiale. Ce qui est en marron et en jaune, c'est la force de travail salarié permanent et salarié temporaire. Alors vous avez la Tchéquie là-bas, c'est le quatrième. Il n'y a même pas 20% de travail familial. C'est ces grandes fermes, la majorité c'est du travail salarié. Et vous avez aussi la Slovaquie qui est dans ce même cas-là, escale. Alors que vous avez la Roumanie qui va se trouver là ici, à 88% familial. Donc on a des formes d'agriculture. Je ne dis pas que c'est une comparaison du Brésil où il y a les agricultures industrielles d'un côté et les agricultures familiales, mais presque. C'est trop hétérogène notre Europe à 28. Et maintenant, en termes de productivité du travail, c'est des données Eurostat. Le problème, c'est que leurs cartes, on n'arrive pas à avoir des cartes de qualité. Je ne suis pas arrivé à les récupérer. Ils ne sont pas très, très, très nets. Les commentaires. La valeur ajoutée brute par unité de travail dépassait 45 000 euros dans 31 régions de l'Union européenne. C'est ce qui est dans les zones vert le plus foncé. Mais 70 000 euros aux Pays-Bas. Là, ils ont une agriculture hyper intensive. Hein, plus intensive que les Pays-Bas, tu meurs. C'est... Et puis, on a aussi les régions de grande culture de France et du Royaume-Uni. Hein, les grandes plaines céréalières. Et puis à l'inverse, vous avez 25 régions de l'Union européenne où la productivité de l'actif agricole est inférieure à 5 000 euros par an. C'est les zones les plus claires. Bon, c'est l'Europe de l'Est et puis une partie de l'Europe du Sud. Pologne, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Portugal, Irlande, Grèce, Finlande et Lettonie. Donc, vous voyez... 9 fois 5, 45. L'écart de 9 à 9. Et quand on parle de 70 000 euros des Pays-Bas, c'est 1 à 14 en productivité. C'est énorme. En ce qui concerne les rendements, on a aussi des écarts qui sont de 1 à 5. Là, je passe rapidement sur cette diapo. Les zones les plus productives, là c'est en céréales, c'est les Landes de l'Est, une partie d'Allemagne de l'Ouest, et puis Belgique, et 8 régions françaises. Là, en céréales, c'est vrai qu'il y a un fort potentiel en France. Et puis il y a d'autres régions qui ont des productions extrêmement faibles. Pour les vaches, la production laitière, la collecte de lait de vache en Union européenne, c'est 141 millions de tonnes. On est de très très loin, première région du monde pour la production de lait. Les USA en font seulement 91. C'est l'Allemagne qui est la première puissance laitière, elle fait 22%, et la France 17%. Puis les autres pays, 10% pour le Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie. Et plus on va au sud, plus il fait chaud, plus on a du mal à faire produire les vaches. Et là, on a des zones où il y a peu de production laitière. Donc là, il y a des échanges. Hein, les pays du Nord vendent du lait aux pays du Sud. Les pays du Sud font des légumes qui les vendent aux pays du Nord. Là, il y a des hétérogénéités, mais qui se comprennent avec des compensations possibles. Ce n'est pas comme les écarts de valeur ajoutée, de productivité que j'ai évoqué tout à l'heure. Un autre point aussi, pour vous montrer que cette Europe, elle est quand même... Vous prenez le prix des terres agricoles. Pays-Bas. toujours. Hein. On est en 2012, un hectare de terre aux Pays-Bas, 48 000 ou 49 000 euros. Un hectare de terre en France, c'est le pointillé rouge, c'est de l'ordre de 6 000-7 000 euros. Vous voyez l'écart ? Énorme. Et là encore, c'est des raisons historiques. Donc si le capital d'exploitation, vous avez 100 hectares en Allemagne, par exemple, hein, en Allemagne, c'est la courbe jaune, là, on est à peu près à 18 000 euros, hein, là. Donc, 100 hectares, 1 800 000 euros de capital pour une ferme céréalière, rien que la terre, sans l'outil de production. C'est intransmissible. C'est un problème énorme. Et puis ça entraîne beaucoup de spéculation sur le foncier. Alors, la question, une même PAC pour des agricultures qui sont si hétérogènes. Moi, je pense que les concepteurs de l'Union européenne, au départ, ils avaient uni des pays qui avaient quand même des caractéristiques assez communes, même s'il y avait l'Italie du Sud qui était moins en avance sur un certain nombre de plans, notamment agricoles, qui avaient surtout beaucoup plus de handicap, et c'était relativement facile de mettre les mêmes règles. Et maintenant, on a des fermes si hétérogènes au sein de l'Union européenne à 28, et l'hétérogénéité s'est tellement accrue que je pense, sincèrement, on a pas mal de réflexions, nous, au sein de ECVC, c'est l'équivalent de la Confédération paysanne à d'autres syndicats agricoles au niveau de l'Union européenne qui sont très attachés aux agricultures paysannes et familiales et qui disent qu'ils ne peuvent pas supporter la concurrence avec les grandes fermes laitières d'Allemagne de l'Est ou céréalières, pareil, d'Allemagne de l'Est et du bassin parisien. Et ils auraient besoin de remettre en place un niveau de protection au niveau national ou... Et ça dépend des aides directes aux emplois, à l'actif, pour protéger. Parce que là, pour l'instant, les aides, elles vont aux grandes fermes, qui s'agrandissent encore. Et elles ne vont pas pour maintenir l'emploi, sachant que l'Europe connaît beaucoup de chômage. C'est que l'aberration qu'on a constatée en France, elle se répète au niveau européen. Là, il y a des lobbies. Hein, tous ceux qui sont dans les agricultures de grandes fermes et syndicats productivistes, ils veulent des aides partout, quoi. Maintenant, les exportations, quatrième point, importation et exportation agroalimentaire de la France et les incidences sur les paysans de certains pays importateurs. Alors, ce premier graphique nous montre deux évolutions dans le temps, mais c'est marrant, j'ai coupé la base. Ah, j'ai coupé la base. Ah, on retrouve les années ici, 88 à 2010. Mais quand même, il y avait autre chose en dessous. Donc, sur 30 ans, les exportations françaises de 2500 à 60 milliards de dollars, bon, ça a cru, donc on ne peut pas dire que la productivité de l'agriculture française n'a pas considérablement augmenté. Les importations, ils ont augmenté aussi. Ah, une amande ou une boisson. Je ne vais plus arriver à parler. Alors, l'excédent, vous voyez, il y a de l'eau, ça ne me suffit pas, moi, je viens d'Anjou. Hein. L'excédent, il s'est maintenu avec des variations et il est quand même à un niveau élevé, hein, c'est 11 milliards d'euros. Donc, on est un pays qui a de quoi, où l'agriculture joue un rôle économique important. Alors, les fluctuations, ça montre certaines années. Vous voyez, en 2009... Le prix des céréales avait baissé. En 2011, il a réaugmenté. Et puis, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Donc, il y a quand même de fortes fluctuations parce que les prix mondiaux eux-mêmes fluctuent. Et un même volume peut se traduire par deux fois plus de devises qui vont rentrer une année de crise alimentaire qu'une année normale. Ces exportations et importations agroalimentaires de la France en 2012 et 2011, 57 milliards 6 d'euros, je vous disais 60 milliards tout à l'heure. Mais en fait, 68% va aux autres pays européens. Donc les échanges intra-pays européens sont très très dominants et les pays tiers, c'est un tiers seulement. Principaux clients, donc Allemagne, Belgique, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas. Et les États-Unis, sur ces milliards d'euros, c'est seulement 2,4, c'est-à-dire très peu, quoi. 3 à 4%. Bon, champagne, je ne sais pas, quelques vins et spiritueux, on n'a pas de céréales à leur exporter, ils en produisent aussi. Alors, c'est le deuxième solde excédentaire de la balance commerciale française. Et je vais vous montrer ça, là. Ça, c'est, moi, je trouve que ce graphique est très, très intéressant. On part en 2002, on ne va pas si loin. Et on compare l'agroalimentaire, ce sont les bâtons marrons, là. Le solde des échanges extérieurs. C'est ce solde qui est positif pour l'agroalimentaire, qui parfois est à 7-8, parfois il passe au-dessus de, comme en 2011, près de 12. À côté, les parfums, c'est un autre secteur qui est très positif de la, au niveau de matière des exportations françaises. Et puis l'aéronautique, hein, les Airbus. Et par ailleurs, l'automobile, qui est devenue très déficitaire. L'informatique, qui est un gouffre. Alors vous comprenez que les gouvernants, qu'ils soient socialistes ou UMP, ils veulent maintenir cet excédent, parce que c'est au niveau de l'équilibre de la balance commerciale française, c'est stratégique. Sachant que ça se dégrade quand même depuis ces dernières années. Mais c'est donc, ça confirme ce que je vous disais, c'est le deuxième poste d'exportation, donc, enfin, en matière de solde. Hein. Après, les Airbus. C'est pour ça qu'on transforme tout à l'heure l'exportation agricole française, 129 Airbus. Je ne sais pas si c'était allé l'année 2010 ou 2011. Mais c'est quand même assez impressionnant. Alors, si on regarde plus à l'intérieur, ce solde des échanges, avec en rouge ce qui est extra-Union européenne, et puis en gris ce qui est intra-Union européenne. Le total, donc, est largement, si c'est positif, et là, il n'a pas pris, c'est 2000, une moyenne de 2000 à 2010, donc on est à plus de 9 milliards de soldes. On est déficitaire en café-cacao. Ça, on ne les produira jamais. Hein. On est déficitaire en alimentation du bétail. À votre avis, c'est quoi? Ouais, c'est le soja. Ils écoutent, hein, et puis en plus, c'est bien, c'est sympa de contribuer. Les corps gras. Je continue mes questions, puis après, je vous donne la parole. Hein. Les corps gras. L'huile de palme. Pendant qu'on met notre colza, la moitié des superficies en colza, les deux tiers en Allemagne, pour mettre comme carburant, on achète de l'huile de palme qui a une valeur oméga 3, etc., bien plus déplorable. Ça, c'est encore une aberration. Bon. Et si on avait pris les importations d'huile de palme au niveau européen, ça fait un boom terrible. Et nous, on a développé le colza qui est une très bonne huile en matière d'oméga 3. Après, alimentation, café, cacao, ça on a vu. Fruits et légumes, c'est logique, il y a beaucoup de fruits et légumes, les bananes et puis les oranges, etc., etc. Ça, c'est important. Bon, il y a une partie qui vient d'Europe, hein, qui sont en intra-Union européenne, et les poissons. Là, on est très, très déficitaire en poissons. Bon, parmi les excédents, les boissons, bon, et les vins et spiritueux, que l'on vend plus largement à l'extérieur de l'Europe, qu'en Europe, les céréales, c'est le deuxième poste, et là on le vend plutôt aux autres pays européens qui n'ont pas assez de surface, les Hollandais n'ont pas assez de surface pour nourrir tous leurs cochons et leurs vaches, et puis troisième poste, c'est la production de lait. Là on vend surtout, c'est moitié-moitié entre l'Europe et extra-européen. Et puis la viande, on est un peu excédentaire. Et surtout, on exporte des taurillons vers l'Italie, où ils les engraissent, ou vers l'Espagne, etc. La question que vous vouliez poser?
Oui, sur le café cacao, on est déficitaire, mais ce n'est pas pour des raisons. On a énormément de terres extérieures, notamment dans cette colonie qui sont encore en cours. Et c'est uniquement une question de prix. Le café, on a fait dans les années 30 énormément dans les États-Unis. À l'époque, c'est toutes les colonies.
Le coût de production est
Le café, c'est comme la vigne, c'est beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre. Il faut tailler, il faut récolter. Ben, on peut, oui, mais là, je ne pense pas quand même qu'on puisse être autonome en café, même si on mettait la Guadeloupe et la Martinique. Il n'y a que 40 000 hectares de terre en Guadeloupe, hein, c'est petit. Hein. La Guyane, c'est plus grand. Mais on fera pas de l'arabica en Guyane. On fera du robusta et il va faire baisser la caféine. Ah, ils sont d'altitude, c'est l'arabica. Non, le robusta, c'est vrai qu'on peut en produire dans les plaines tropicales sans problème. Mais au niveau de la qualité, il n'y a pas les mêmes arômes quand même. En plus, on est des consommateurs de café, mais quand même assez avertis. On ne boit pas n'importe quoi en France. Ah. Oui, à voir. Bon. On ne va pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai que. Autre remarque là-dessus, il n'y a pas, je passe. Fini. Bon, j'ai plus beaucoup de diapos. Hein. Les échanges alimentaires de la France extra Union européenne, donc le total et les exportations en bleu, importations en rouge, et puis le solde. Bon, c'est ce qu'on a vu déjà, c'est les boissons qui sont en premier, et puis les céréales. Et puis les déficits, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Mais donc ça présente la chose de façon plus simple. Parce que les économies agricoles sont tellement imbriquées au niveau de l'Union européenne que c'est bien de dégager hors UE.
Les importations de poissons, c'est pour l'alimentation
ou l'alimentation des poissons, chez nous.
Ou les farines.
Ou les quoi?
Les farines, peut-être.
Les farines animales, oui, bien sûr. L'alimentation animale, oui, c'est ça que je voulais. Mais bon, c'est aussi pour consommer des poissons. Hein. Alors, les subventions de l'Union européenne à ses exportations, vous voyez le montant des subventions qui correspond. Alors, c'est les aides directes, parce qu'il n'y a plus tellement d'aides, ce qu'on appelait les restitutions à l'exportation. C'est via les aides directes, celles qui sont cachées, qui théoriquement ne sont pas liées à la production, c'est que vous pouvez laisser les terres en jachère. Vous aurez les mêmes aides quand même, mais dans la réalité, comme elles sont basées sur des références historiques, quand on les traduit en hectares exportés, eh bien en quantité exportée, les aides, nos exportations céréales, c'est le plus impressionnant. Après, le deuxième, c'est les viandes, les poulets, etc., et produits laitiers, et un peu le porc. Alors, c'est ce qu'on a, ces aides via. C'est des PU que critiquent beaucoup de syndicats agricoles africains en disant comment voulez-vous que les petits producteurs de chez nous, qui n'ont pas de matériel agricole ou très peu, qui n'ont pas de soutien de leur gouvernement, et puissent être compétitifs avec les céréales et les excédents de produits laitiers français et européens. Et ils ont raison. Et là, le gros problème, c'est que le niveau des taxes, comme les gouvernements de beaucoup de ces pays, mais là j'anticipe, Dominique pourra revenir, beaucoup de capitales sont des ports, le pouvoir est dans les villes, dans beaucoup de pays d'Afrique, et ils n'osent pas taxer la poudre de lait ou les céréales à un niveau qui serait correct. Le seul pays qui taxait, c'est le Nigeria, il taxait à 50%, mais maintenant il taxe moins. Mais tous les autres pays, il y a des pays qui taxent à 5-10%, le blé, la farine de blé qui vient de chez nous, ou la poudre de lait. Et donc, ben, du coup, comment développer les agricultures du Burkina, du Mali, quand on laisse rentrer les excédents céréaliers ou laitiers du monde entier, dont les nôtres? Et donc, on a une certaine culpabilité là-dessus, et la Confédération paysanne, on dit on ne doit pas exporter vers certains pays, on ne devrait pas exporter dans certains pays aux conditions actuelles. Mais on va un peu décortiquer, parce qu'en fait, c'est plus complexe qu'un discours idéologique. Là, j'ai mis les principaux exportateurs de blé vers l'Asie, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, et la France est là. Donc, on est un des exportateurs mondiaux, mais les Américains sont présents, les Brésiliens, les Argentins, etc. Le Brésil, l'Ukraine aussi, mais ça dépend les années, l'Australie, et le Brésil, c'est la dernière couleur, hein, qui prend, il prend de l'ampleur. Bon, mais par contre, si on voit vers l'Afrique subsaharienne, alors là, ce sont les USA et la France. Ah oui, non, je me suis trompé dans l'analyse. Bon, enfin, ça varie beaucoup, mais c'est quand même Ukraine. Bon. L'augmentation de la population, c'est les enjeux pour en 2050. La population en Afrique subsaharienne va fortement augmenter, surtout si on ne fait rien en matière de formation des filles. Si on laisse ça, les choses comme ça, et moi je ne vois pas très bien avec quel argent ils pourront se payer l'alimentation, et c'est le problème de l'accès à l'alimentation qui se posera. Il pourra devenir très très critique. C'est les prévisions d'augmentation en vert clair de la population de l'Afrique subsaharienne. Vous voyez, on est à 900 millions et on passerait à plus de 2 milliards. Ils sont déjà déficitaires, largement déficitaires. Ils importent, le Sénégal importe les 4/5 de ses céréales, des calories. Bon, et puis, beaucoup de villes se nourrissent à partir du riz et des farines de blé importées. Néanmoins, moi, je vais distinguer, pour provoquer un débat, deux situations. Bon, j'ai vécu 4 ans en Algérie, et puis je suis fait des missions dans les 3 pays du Maghreb, pu analyser un peu la politique agricole. Elle n'a rien à voir avec celle des pays d'Afrique au sud du Sahara. Et si on veut vraiment aller en profondeur et comprendre le concept de souveraineté alimentaire, eh bien on peut le comprendre à travers la comparaison entre l'Algérie, par exemple, et puis le Sénégal. Le pays du nord de l'Afrique, c'est 170 millions d'habitants. Ils sont devenus structurellement incapables de produire leurs calories. En fait, c'est des pays où, en moyenne, on a 500 mètres cubes par habitant et par an. On est en situation de pénurie absolue pour l'Algérie. On y va pour la Tunisie. Le Maroc dépasse encore un peu. Il est à 700, mais dans 2050, il sera plutôt à 500. Et donc, il faut satisfaire tous les besoins. Et c'est difficile. Et il n'est pas possible de produire toutes les céréales. Et le climat est extrêmement aléatoire. Ce n'est pas la terre qui manque, c'est le climat. Donc, certaines années, l'Algérie importe les 3/4 de ses céréales. En moyenne, c'est plutôt 70%. Le Maroc et la Tunisie, c'est plutôt, sur 10 ans, c'est la moitié. Alors, parfois, ils exportent. Bon, il y a d'autres pays du monde. Hein. Singapour ne produit pas les céréales pour nourrir des millions d'habitants. Mais là, il faut avoir les ressources. Alors, les ressources du tourisme, les ressources des phosphates, les ressources du pétrole, ou pour la Tunisie, l'huile d'olive, qui permet d'acheter beaucoup de céréales. Néanmoins, les balances agroalimentaires de ces pays sont très, très déficitaires. Mais les produits stratégiques sont taxés à l'entrée, contrairement à ce qu'indique l'OMC. Taxés à l'entrée, et après, il y a une subvention aux producteurs de farine, de façon que le blé, la farine de blé et le pain, et d'autres denrées comme la poudre de lait, le lait, etc., soient largement subventionnés. Et parallèlement, les prix aux producteurs sont souvent le double de la France. Donc on a une politique de souveraineté alimentaire qui est en train de s'écorner au Maroc, parce qu'ils viennent ils ont signé un accord de libre-commerce avec les USA, alors qu'ils leur ont accordé quelques années de répit pour les problèmes agricoles, mais c'est pas sûr que ça dure. Ils ont signé, le Maroc a aussi signé un accord de libre-commerce avec l'Union européenne, qui est très discuté. Certains disent qu'il va fragiliser l'agriculture du Maroc, mais ça reste quand même, pour l'instant, un niveau de protection suffisant pour les producteurs de céréales, de lait. De lait, ça devient plus fragile. Le problème, c'est qu'il y a l'accès à l'eau qui leur devient plus fragile pour eux, ce qui fait que les grands périmètres irrigués, les grandes entreprises privées prennent l'eau pour exporter du maraîchage et des fruits vers l'Europe. Donc, mais il y a des débats, mais il y a quand même une politique agricole. Dans les majorités des pays d'Afrique au sud du Sahara, il n'y a pas de politique agricole digne de ce nom. Le niveau de taxation est extrêmement faible. Et quand il y a une crise alimentaire, on enlève toutes les taxes sur les importations. Les paysans peu équipés, bon, ben, ils ne peuvent pas être compétitifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et moi, je pense qu'une grande partie de ces pays d'Afrique de l'Ouest pourraient largement nourrir leur population. Pas sûr en 2050, pas du tout sûr, mais actuellement. Bon, je mets de côté le Sénégal parce que le climat et la Mauritanie, le climat n'est pas très favorable, mais il faudrait mettre un niveau de taxation aux frontières beaucoup plus important et développer des politiques agricoles qui soient dignes de ce nom. Ça n'est pas le cas. Là, j'anticipe trop sur ce que vous allez dire.
On va le dire.
Ouais, donc, vous allez creuser. Mais donc, par rapport à nous, culpabilité, quand une partie de mon blé partait vers l'Algérie, ça ne me posait pas de problème de conscience. Si part vers le Sénégal, je me dis, là, c'était pas nécessaire que je rentre dans ce schéma-là. C'est un peu pour revenir à la situation de producteur. Toc, toc. Et c'est fini ? Ouais, je crois. Non, c'est... Donc, ouais, quelques respects de... Ça, là, ces discours de Via Campesina. Hein. Les produits alimentaires ne sont pas des marchandises comme les autres. Et leur commerce devrait respecter quelques principes éthiques. Par exemple, respecter et promouvoir la souveraineté alimentaire des pays. L'accès au marché, qui est une doctrine de l'OMC et de la Banque mondiale, l'accès au marché des autres pays n'est pas un droit. Nous, de notre côté, en vert, là, il faudrait bannir tout dumping lié à des subventions directes et indirectes sur les produits exportés. Et cesser de faire des concessions commerciales sur l'agriculture en échange de l'ouverture des marchés des pays tiers aux produits non agricoles et services de la France et de l'Union européenne. Et nous, il y a tous nos lobbies agro-exportateurs lors des négociations avec les pays d'Afrique qui se sont manifestés. Et il y a des gens qui tiennent des doubles discours et là, je trouve que c'est éthiquement, c'est pas acceptable. Mais par contre, vu les capacités de production de l'agriculture française, il faut aussi tenir compte des besoins des autres pays de l'Union européenne qui n'ont pas notre potentiel, et notamment pour tous les produits à haute valeur ajoutée, et même pour les céréales et les produits laitiers. Donc moi, je ne suis pas contre les exportations, par principe. Tout dépend vers où ça va et quelles sont les conditions dans le pays qui les recueille, qui les achète. Ouais. Et puis également... contribuer sans dumping à la satisfaction des besoins alimentaires de l'Afrique du Nord, de l'Asie et de l'ASS, notamment en céréales. Là, les deux derniers points, c'est plutôt une position personnelle. Les trois premiers, c'est position de Via Campesina. C'est tout.
D'accord.